suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Le métier de sociologue réserve parfois des surprises au coin de la rue. On l'a vu la semaine passée avec Stéphane Beau, dont la longue enquête sur une famille algérienne en France a démarré à la faveur d'une rencontre informelle après un débat public. On le verra sans doute encore davantage aujourd'hui avec Isabelle Coutan, qui s'est laissée bousculer dans son travail par la manifestation très locale à l'échelle de son quartier de la grande actualité. L'actualité avec un grand A, lorsqu'un groupe de migrants réfugiés s'est installé dans un lycée désaffecté de son quartier parisien. Ce sont soudainement ces différents mondes qui, comme elle l'écrit, s'entrechoquaient. Mes sphères professionnelles, résidentielles, amicales s'entremêlaient, mes identités de chercheuse, de riveraine, de parents d'élèves se superposaient et mon éthos de sociologue était troublé par mes inquiétudes de mère. Quoi de plus pertinent en pareille situation que de mener l'enquête ? C'est ce qu'elle a fait et cela prend désormais la forme d'un livre passionnant, Les migrants en bas de chez moi. Elle est aujourd'hui l'invitée de la suite dans les idées. Isabelle Coutan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse au CNRS, à l'IRIS, et vous publiez donc aux éditions du Seuil, ces jours-ci, Les migrants en bas de chez moi, qui est le résultat d'une enquête non prévue, comme je disais, comme parfois la recherche s'invite dans la recherche, en quelque sorte. Et c'est de cette enquête dont on va parler aujourd'hui. On en parlera aussi en deuxième partie de l'émission, à propos de la même actualité exactement, du même événement, pour reprendre un mot que vous utilisez dans votre livre, un événement qui a surgi dans ce quartier parisien de la Place des Fêtes, un été, en 2015, et qui a fait l'objet, cet événement, d'un autre livre, mais un roman, ou un récit plus exactement cette fois, un livre littéraire paru aux éditions de l'Olivier et signé Juliette Cahane, qui sera notre invitée pour la deuxième partie de l'émission. Alors, Isabelle Coutan, je le disais, vous ne travaillez pas spécialement sur ceux que vous appelez les migrants réfugiés ou plus simplement par la suite les migrants. Vous avez travaillé sur de nombreux objets, mais quand on est sociologue, on l'est en quelque sorte aussi 24 heures sur 24, même si on n'est pas que sociologue, on est toujours à côté autre chose. Et on, par exemple, on est habitant d'un quartier parisien. Et dans ce quartier parisien qui est le vôtre, dans le 19e arrondissement, au sud de cet arrondissement parisien, soudainement s'est installé un groupe déplacé qui déjà bougeait, fuyait le nord parisien où il était déplacé par la police et a finalement trouvé refuge à la faveur d'une mobilisation d'un collectif qui l'a aidé en cela et puis aussi de la mairie de Paris qui a trouvé une solution dans un lycée désaffecté qui est tout près de chez vous. Et c'est donc un peu par hasard que vous vous êtes trouvé embarqué dans ce travail de recherche. Comment au juste ça s'est passé ?
Alors, j'étais déjà... Bon, moi, je suis sociologue des quartiers populaires, mais je travaille plutôt sur des quartiers d'habitat social un peu éloignés de Paris, en région parisienne. Travaillant sur les quartiers populaires en Île-de-France, la question des migrations, je la rencontre voilà, de manière indirecte, même si j'ai plutôt une entrée de sociologie des classes populaires. Mais bon, une grande partie des habitants de ces quartiers-là sont immigrés ou issus de l'immigration. L'histoire des campements parisiens, je l'ai découverte comme habitante de Paris, citoyenne, au moment où il y a eu les campements sous le métro La Chapelle avant l'été 2015. Et puis j'ai un petit peu suivi cette histoire par l'intermédiaire de collègues à moi qui habitaient le 18e arrondissement et qui du coup s'étaient mobilisés avant l'été déjà autour de La Chapelle et qui faisaient partie des gens qui ont fondé ce collectif La Chapelle qui a été à l'origine de l'occupation du lycée dans mon quartier. Donc j'avais un petit peu suivi les pérégrinations à travers eux, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse.
Mais donc ça c'était plutôt comme... collègues de chercheurs en sciences sociales, voilà, qui s'étaient mobilisés eux-mêmes comme citoyens
dans leur quartier.
Et soudainement, vous allez retrouver la question à la fois comme habitante d'un quartier et comme sociologue.
Voilà. Et ma réaction première, quand j'ai su qu'au cours de l'été, qu'ils avaient investi ce bâtiment, ça a été un petit peu d'inquiétude, comme pas mal d'habitants, notamment parce que ce bâtiment, en fait, faisait face à quelques mètres du collège du quartier dans lequel, moi, mon fils rentrait en sixième. Et voilà, un collège qui est en plus un collège de réseau d'éducation prioritaire avec bon, les difficultés éventuelles qui vont avec ce type d'établissement. Et donc, j'avais eu cette angoisse-là d'une rentrée dans ces conditions-là. Et j'étais extrêmement surprise que la mairie de Paris tolère cette occupation en face d'un collège, en fait. Et donc, j'avais cette colère de me dire, c'est toléré là parce que c'est un quartier populaire, c'est un quartier dont tout le monde se fiche et ce serait possible nulle part ailleurs. Donc ça, c'était ma réaction d'habitante.
Réaction d'habitante soucieuse aussi, comme d'autres habitants du quartier, justement de transformer profondément le quartier, de se mobiliser pour faire en sorte que ce quartier se développe, qu'il s'y passe des choses intéressantes. Et donc j'imagine aussi un peu une colère à un moment où on entendait parler du 16e arrondissement de Paris qui refusait qu'on installe dans les beaux quartiers des endroits pour accueillir ce type de population.
Voilà, il y avait
exemple.
Un petit peu ces réactions-là qui ont été je me suis rendu compte après que j'étais pas du tout la seule à avoir ressenti au départ ce sentiment un petit peu d'injustice. Voilà, c'est un quartier très populaire qui s'est précarisé dans les années 90. C'est un quartier multiculturel, pluriconfessionnel. J'ai après...
De longue date, avec une très longue histoire de migration.
C'est un quartier, c'est une terre d'accueil depuis la fin du 19e siècle, ce quartier. Il y a 25% d'immigrés, 15% d'étrangers dans ce quartier aujourd'hui. Donc il y avait cette idée que ça faisait peut-être beaucoup pour un seul endroit. Et en même temps, comme j'étais pas à l'aise parce que intellectuellement, par mes valeurs, par mon métier, évidemment que cette mobilisation aux côtés des réfugiés, je la soutenais. Donc c'est ce malaise, en fait, que j'ai trouvé à résoudre à un moment donné en me disant « je vais étudier ce qui se passe ». Je pense que le fait de faire l'enquête m'a aidé à le vivre aussi, ça.
D'autant que, pour préciser les conditions du contexte politique aussi, il faut comprendre que la police, qui est une police nationale, avait délogé des campements dans le nord de Paris, mais que ça posait un problème à une autre échelle de pouvoir politique, à la mairie de Paris, mais la mairie centrale de Paris, qui était prête à trouver une solution, et c'est la mairie centrale de Paris qui a trouvé cette solution dans ce quartier, non pas la mairie d'arrondissement. Et là, on a pu aussi voir peut-être certaines tensions entre pouvoir politique central parisien et pouvoir politique plus local.
Voilà. Alors, la mairie de Paris, en fait, a toléré. Ça a quand même été une occupation qui n'a pas été impulsée par la mairie
illégale,
au départ. Mais très rapidement, elle a accepté cette occupation. Et évidemment, la mairie d'arrondissement a été mise devant le fait accompli. Donc, les élus de l'arrondissement se sont trouvés en porte-à-faux et étaient d'autant plus mal à l'aise avec cette situation qu'il avait été décidé peu de temps auparavant que ce bâtiment devait être transformé en médiathèque. Le 19e arrondissement est le seul arrondissement de Paris où il n'y a pas de médiathèque. Et ça avait été un enjeu fort pour les gens mobilisés et les quelques élus locaux très mobilisés sur ce quartier de la Place des Fêtes d'obtenir que cette médiathèque soit construite à cet endroit-là, au pied des HLM. Ça, c'était considéré comme une victoire et ça avait été obtenu quelques mois auparavant. Donc, il y a eu un sentiment de lâchage, l'inquiétude que du coup, il n'y ait plus de médiathèque. Effectivement, c'est toujours en discussion, ces histoires-là maintenant. Et les élus du 19e arrondissement se sont sentis coincés un peu vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis de l'électorat, et la plupart solidaires des migrants, mais en même temps inquiets de la manière dont les habitants allaient vivre cet événement avec cette idée, on ne peut pas mettre en concurrence les habitants des quartiers populaires et les migrants.
Alors reprenons le fil chronologique, d'ailleurs c'est le fil que vous avez choisi pour exposer ce qui s'est passé, pour retracer cet événement dont vous parlez. Au fond, ça se produit au cœur de l'été, cet emménagement dans ce lycée désaffecté depuis 10 ans. Mais vous, c'est véritablement à la rentrée scolaire finalement que vous en prenez personnellement conscience.
Oui, c'est la perspective de la rentrée qui m'a préoccupée d'abord personnellement. Et du coup, je me suis rendu compte, alors en même temps, à la rentrée scolaire, la réunion de rentrée, j'étais surprise, agréablement du point de vue de mes valeurs, mais quand même très surprise de me rendre compte qu'aucun parent ne posait de questions sur cette occupation. Alors le proviseur a d'emblée fait un discours d'accueil en expliquant qu'il y avait une rentrée un peu particulière, qu'il y avait des nouveaux voisins, qu'il fallait leur faire bon accueil. Et moi, j'avais déjà décidé de faire un peu une recherche et je suis la seule à avoir posé une question pour demander comment la situation allait être travaillée avec les enfants. Mais il n'y avait aucune réaction d'inquiétude, de colère, de rejet de la part des parents. Et j'ai trouvé que c'était une situation intéressante à comprendre. Et après, je me suis rendu compte, en commençant l'enquête, que les parents d'élèves avaient déjà préparé la rentrée, pris contact avec l'équipe enseignante, le proviseur et certains représentants des migrants pour penser la cohabitation. Donc il y avait eu un travail pédagogique un peu en amont qui avait été fait déjà.
Peut-être faut-il préciser aussi qu'on était à ce moment-là, au tout début du mois de septembre 2015, dans un contexte qui changeait un petit peu du point de vue de la représentation médiatique de ce qu'on a appelé la crise des migrants. C'est le moment où la photo devenue célèbre du jeune garçon mort sur une plage en Turquie fait le tour du monde et, je pense, fait prendre conscience aussi à beaucoup de gens de peut-être la gravité de cette crise et peut-être change un petit peu les représentations pour certains. C'est important préciser parce que c'est un des moments forts de cette crise, du point de vue au moins de sa représentation médiatique.
Oui, c'est donc la rentrée. Puis la situation était encore relativement gérable. Ils étaient 150 au moment de l'occupation fin juillet, les migrants. À la rentrée, on estimait qu'ils étaient autour de 400. Donc, c'était pas encore dégradé comme ça a pu être par la suite. Le jour de l'évacuation, ils étaient 1400. Et effectivement, il y a eu la mort du petit Elan en même temps. C'est le moment où Angela Merkel disait a ouvert l'accueil à 800 000 demandeurs d'asile. Donc, c'est dans ce moment-là, effectivement, que se passe la rentrée. Donc, au niveau de l'opinion publique, il y a quand même un moment de compassion à minima, qui explique peut-être aussi effectivement qu'il y ait une relative tolérance. En même temps, il y avait quand même des tensions et des conflits dans le quartier, et c'est ça que j'ai trouvé important d'étudier.
C'est ça qui vous
les
a donné envie au fond, parce que vous disiez au moment de la rentrée, vous aviez déjà décidé de mener cette recherche. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait devenir la sociologue de votre propre quartier, en quelque sorte, à ce moment-là?
Moi, j'ai ressenti très fort le sentiment qu'on vivait une grande histoire. L'histoire avec un grand H. À l'échelle du quartier, c'était ça, et que c'était important ce qui se passait là. Et maintenant, je sais comment l'histoire s'est terminée. Mais à ce moment-là, on ne savait pas ce que ça allait produire. Et je me suis demandé ce que ça allait produire localement dans le quartier. J'avais l'impression qu'il y avait là un laboratoire de ce qui se passait en Europe. Et je ne savais pas ce qu'allait se passer du tout, début septembre. Comment ça allait évoluer, comment le quartier allait réagir. Je savais qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des conflits, que les gens se disputaient. Je savais que l'amicale des locataires dans l'immeuble voisin avait explosé. Autour de cette question-là, de est-ce qu'il faut accueillir ou pas, est-ce qu'il faut tolérer ou pas. Donc je me suis dit que même si c'était une petite enquête monographique, mais c'est ce que j'aime faire, il y avait là des grands enjeux.
Oui, on pense aux mots utilisés parfois de façon sans doute un peu abusive, glocale, c'est-à-dire vraiment la contraction des enjeux globaux, cette crise géopolitique, ces migrations, et puis un tout petit territoire, parce qu'au fond, le quartier est petit, il est facilement identifiable sur une carte, il existe comme quartier.
Oui, oui. Oui, on pouvait vraiment faire de l'ethnographie dans le sens fort du terme, de travailler sur un milieu d'interconnaissance. Voilà, là j'avais vraiment les moyens de le faire. En plus, j'étais à toutes les places et c'est la première fois que, enfin, je me suis rendu compte très vite, puisque j'avais accès aux positions du collectif La Chapelle par les collègues qui étaient dans le bureau voisin du mien, qui sont aussi des amis. J'avais accès aux positions des parents d'élèves quand j'allais aux réunions du collège. Je me suis rendu compte que les deux enseignantes les plus engagées auprès des migrants, c'était la professeure principale et la prof de mathématiques de mon fils. Donc par lui aussi, je savais ce qui se passait dans la classe. J'avais une amie très proche qui faisait partie de ce qui est devenu le groupe Solidarité Migrants Place des Fêtes. Je me suis rendu compte après qu'il y avait des élèves de l'école normale supérieure, où moi je suis impliquée, enfin dans le cadre du master, qui étaient en train de mettre en place un programme d'accueil d'étudiants réfugiés. Donc je me suis rendu compte qu'une partie des demandeurs d'asile que je fréquentais dans le bâtiment étaient scolarisés à l'école normale supérieure. En fait, tout se recoupait là et j'avais vraiment de quoi faire une ethnographie.
Alors, vous venez de lister au fond tout un tas d'acteurs qui prennent part à cette situation, mais finalement pas le cœur de cette situation, c'est-à-dire ces migrants qui sont dans ce lycée. Et vous allez mettre du temps avant d'entrer dans ce lycée et de rencontrer au fond les premiers concernés, Isabelle Coutant.
Alors, je pense que j'avais un malaise qui était lié... Enfin, début septembre, la situation allait à peu près, au cours du mois de septembre, la situation est devenue plus compliquée. C'était un bâtiment qui était en autogestion. Les militants qui étaient arrivés là avec les migrants prenaient très fortement cette autogestion. Donc l'autogestion, déjà, c'est pas simple. Avec des gens qui parlent pas la même langue, c'est pas évident. Puisqu'il y avait essentiellement des hommes originaires du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan. Et en plus, parmi les Afghans, différentes ethnies qui parlaient pas non plus forcément la même langue. Donc, il y avait cette question des langues. Et puis, il y avait la question d'un groupe qui n'était pas stable, puisqu'il y avait des allées, des départs. Certains passaient juste là pour aller dans d'autres pays ou pour partir à Calais. Et puis, c'est un groupe qui grossissait. Donc, fixer un peu des règles de fonctionnement, même avec des assemblées générales, avec un groupe qui est mouvant, c'est compliqué. Et donc, moi, je pense que j'avais un malaise par rapport à l'état du lieu et que c'était pas facile d'y rentrer. Et puis, je savais peut-être pas forcément comment y rentrer. Donc, au mois de septembre, j'ai effectivement plus travaillé sur ce qui se passait autour. Les réunions, j'ai essayé d'avoir le point de vue des élus locaux, d'associations de quartier. J'allais dans des réunions qui parlaient du lycée, mais un petit peu dans autour.
D'ailleurs, mais c'était plus votre manière d'appréhender les choses, c'est-à-dire l'impact de l'installation de ce groupe, principalement d'hommes, dans ce lycée désaffecté, dans le quartier, plutôt qu'une enquête sur la manière dont ce groupe s'organisait, vivait à l'intérieur de ce bâtiment.
Oui, c'était ça ma question, effectivement. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'avais une entrée plus périphérique. Et en même temps, quand j'ai su en septembre qu'il y a eu un jugement qui a quand même prononcé... à un moment donné, compte tenu de l'état de sécurité et l'état sanitaire du lieu, à un moment donné, effectivement, la ville de Paris a demandé à ce que ce bâtiment soit évacué. Ça, et donc le tribunal a ordonné l'évacuation. Et on a su en septembre que c'était prévu pour fin octobre. Et là, moi, je me suis dit, je peux pas continuer complètement de travailler sur ce qui se passe là sans quand même
aller voir.
Et puis je me suis dit qu'il fallait au moins que je rencontre les représentants des migrants qui étaient en lien avec le voisinage. Puisque quand j'ai commencé...
Il y avait des relations.
En tout cas, moi, j'en ai repéré deux qui étaient en lien important avec le voisinage immédiat, qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui étaient plus en lien avec le collectif militant qui avait amené les migrants là. Parce qu'il y avait après aussi des stratégies des uns des autres à l'intérieur. Je n'ai pas tout étudié dans les détails, mais moi, j'ai vraiment repéré les deux qui étaient en lien avec les habitants de la barre voisine et puis les parents d'élèves, en fait. Et je me suis dit qu'au moins, il fallait que je comprenne qui étaient ces gens-là.
Et en entrant, ce que vous avez découvert, au fond, c'est que, d'une certaine façon, il n'y avait pas un groupe de migrants qui avaient là des groupes relativement séparés les uns des autres, même si évidemment il y avait probablement de la coordination, la nécessité de parler d'une seule voix à certains moments, mais malgré tout il y avait beaucoup de divisions à l'intérieur, de divisions d'abord linguistiques.
Oui, les demandeurs d'asile, les migrants étaient organisés par chambre en fonction de leur nationalité ou de leur ethnie chez les Afghans. C'était pas les mêmes chambres. Les Afghans avaient tendance à cuisiner dans leur chambre et les Soudanais, les Érythréens allaient plus auprès de la cuisine et donc ils mangeaient pas aux mêmes endroits. Et de fait, la situation d'enquête, ça c'est un travail qu'on fait quand on est ethnographe, c'est qu'on analyse, on se dit que la situation d'enquête, ce qui se passe dans la relation avec les personnes qu'on rencontre, dit quelque chose du milieu qu'on étudie. Moi, je suis rentrée chez les Afghans et chez les Afghans Pachtounes. Et du coup, c'est un peu là que je suis restée. Je me suis sentie un peu captée. Je me suis rendu compte qu'en tant que soutien, on est aussi une ressource parmi d'autres ressources et qu'il y a des enjeux, effectivement, à s'approprier des ressources, ce qui est normal. Et effectivement, je n'ai pas pu naviguer de manière... je sentais que j'allais froisser si j'allais auprès des autres communautés. Et d'ailleurs, j'ai essayé à un moment, je suis allée avec une amie qui parlait arabe pour rencontrer plus les Soudanais. Et puis le délégué des Afghans dont j'étais proche m'a dit « Mais tu n'as pas besoin, demande-moi ce que tu veux savoir, moi je te dis ». Donc j'ai compris que c'était... Donc j'ai pris la place qui m'était assignée, mais c'est comme ça qu'on travaille de toute façon. Après, il faut comprendre effectivement les enjeux et comprendre la place qui nous est donnée.
Alors justement, cette place, elle était plus compliquée, j'imagine, pour vous que pour les autres enquêtes que vous avez eu l'occasion de mener comme sociologue dans des quartiers dans lesquels vous n'habitez pas ou pour lesquels vous étiez plus directement estampillé sociologue. Comment vous avez, au jour le jour, vécu cette multi-appartenance, au fond, et est-ce que ça vous a plongé parfois dans des affres, dans des réflexions? Est-ce que ça a renforcé, je dirais, le caractère nécessairement réflexif que toute démarche sociologique doit forcément avoir? Mais peut-être là, il y a eu une situation un petit peu plus aiguë de ce point de vue, un peu plus dramatique, au fond.
Alors, je pense que c'est à la fois, effectivement, le fait de travailler en bas de chez moi, on va dire, plus la situation qui était très particulière, cette urgence humanitaire qui était quand même très perturbante. Je pense qu'on est sorti on est sorti de nos vies pendant un moment donné. C'était quelque chose qui était
hors norme. Ça a eu un impact, pas seulement sur la vie professionnelle, mais sur,
pendant,
sur l'emploi du temps.
Pendant
générale,
un mois, déjà. Effectivement. Et puis, j'ai eu un rapport beaucoup plus affectif. Je ne pouvais pas couper mon enquête et ma vie. J'avais aussi un rapport un peu addictif au lieu. Et je pense que là, pour le coup, ce n'est pas simplement le fait de travailler près de chez soi. C'était lié à cet événement-là. Alors peut-être tout le monde l'a pas eu, mais je pense que je suis pas la seule à l'avoir eu. C'est-à-dire qu'il y avait ce besoin d'y aller, sans forcément trop savoir pourquoi, par rapport à ce qui se créait là, les liens qui se nouaient dans ce type de situation. C'était des liens très forts. Je savais que ça allait être limité dans le temps, puisque je savais qu'il allait y avoir une évacuation, mais il y a quand même eu 3 semaines où moi j'ai un peu perdu le fil de mes questions et je pense que j'étais pas réflexive du tout. Mais je tenais mon journal de terrain comme on fait. Et c'est ça qui aide. Pour le coup, la réflexivité, elle vient après, dans les mois qui suivent.
En reprenant les notes
et en faisant des entretiens et en croisant les points de vue. Mais il y a eu un moment de l'enquête où j'ai un peu perdu le fil des questions, en tout cas, où je me suis laissée aller à vivre ce qu'il y avait à vivre et puis
à prendre les urgences comme elles venaient,
comme
j'imagine.
Elles venaient.
Mais comment vous avez vécu cette perspective de la date dont vous avez parlé à plusieurs reprises de l'évacuation? Parce que vous saviez, la date était inscrite, la date de la fin. Alors, pas la fin totalement de l'enquête, parce que vous allez nous dire comment vous avez continué à travailler après. Mais néanmoins, il y avait très tôt la conscience que, à telle date, ce groupe de gens qui étaient là et qui produisaient un certain nombre de choses dans ce quartier n'allait plus être là.
Alors, comme à ce moment-là, on vivait, enfin, parmi les gens qui étaient impliqués dans ce lieu à divers titres, on vivait quand même un peu comme eux, au jour le jour, il me semble. Au jour le jour, en sachant qu'il allait avoir une fin. Et il y avait quand même aussi une situation qui se dégradait, des bagarres qui se multipliaient.
Un groupe qui croissait.
Donc, il y avait aussi un peu une inquiétude et en même temps une intensité qui participait sans doute à la force des liens qui se nouaient potentiellement là. Et je ne sais pas si on était vraiment... Enfin, on savait qu'ils allaient partir. À la fois, enfin, en tant qu'habitants proches, il y avait quand même l'idée, et je pense même parmi les militants les plus politisés, à la fin, il y avait quand même l'idée qu'il fallait que ça s'arrête, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, sans doute, la perspective de l'évacuation était... Enfin, il y a eu une forme de soulagement quand c'est arrivé. Et en même temps, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé... Enfin, moi, j'ai ressenti un grand vide et je pense que je ne suis pas non plus la seule. C'est-à-dire que c'était pas facile qu'il n'y ait plus rien d'un coup. Bon, alors moi, du coup, j'ai fait mon enquête derrière et j'ai trouvé, c'est tout le moment où j'ai fait l'enquête auprès du voisinage et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les gens que j'avais repérés, les gens solidaires d'abord, qui avaient été solidaires des migrants. Et je pense que le fait de se rencontrer, de se parler, ça permettait de continuer quelque chose ensemble. Et puis après, j'ai aussi rencontré une partie des voisins qui avaient été hostiles et qui avaient très très mal vécu ce voisinage forcé, on va dire.
Alors, on commence par les premiers, ceux qui étaient impliqués, que vous aviez croisés pendant ces semaines. Qu'est-ce qu'elles, j'allais dire, oui, plutôt elles, parce qu'il s'agit surtout de femmes, vous ont dit?
Alors en fait, alors il y avait à la fois un ancien élu communiste du quartier qui était intervenu au cours de l'été, qui avait repéré un des délégués des migrants, des Afghans. Il y avait aussi une voisine, pareil, qui était restée là pendant l'été d'une soixantaine d'années, qui avait déjà pris pas mal de contacts. Et puis à l'approche de la rentrée, il y a tout un groupe de femmes d'une quarantaine d'années, parents d'élèves du collège, qui sont préoccupés des tensions que la situation fait naître dans leur immeuble. Et puis cette inquiétude que la situation soit instrumentalisée par le Front National, parce que le Front National a distribué un tract vraiment dans la perspective des élections régionales qui avaient lieu donc juste après, en décembre 2015. Et donc il y avait un tract spécial Jean Carré en disant il y a la mafia, le
Jean
crime...
Jean Carré, c'était le nom du lycée.
Voilà, le lycée Jean Carré, c'est le nom de ce bâtiment occupé. Et donc le tract faisait mention de cette situation précise et en disant, voilà, il y a la mafia, le crime à deux pas de vos enfants. C'est ça qui a fait qu'un certain nombre de riverains immédiats se sont dit, il faut qu'on intervienne pour calmer les rumeurs, pour apaiser les peurs, éviter que cette situation soit instrumentalisée par le Front National et aussi dans l'idée que la rentrée scolaire se passe bien pour les enfants.
Donc ils ont créé un groupe. Ces mères d'élèves étaient plutôt la frange la plus politisée, pas forcément, j'imagine, militante, mais ayant une conscience politique assez aiguë.
Oui, en fait, je me suis rendu compte en retravaillant un peu les trajectoires d'une et des autres, d'une part que la plupart se connaissaient quand même déjà un peu en amont, qu'elles avaient un engagement de parents d'élèves, qu'elles avaient eu, pour certaines d'entre elles, des engagements autour de Réseau Éducation Sans Frontières dans les années 2000, puisque c'est un quartier où il y a pas mal d'enfants de familles sans papier.
Donc RESF, c'est cette association qui se mobilise contre l'expulsion de parents d'élèves et pour la scolarisation des élèves en situation, dont les parents sont en situation irrégulière.
Voilà, donc ça s'inscrivait dans cette histoire. Et en plus, le groupe s'est mobilisé de manière assez efficace, parce qu'il y avait déjà ces engagements anciens dans lesquels les gens se côtoyaient depuis quelques années sur la scène locale. Et l'année précédente, le collège a perdu l'appellation, et donc les moyens financiers qui vont avec, l'appellation REP, Réseau d'éducation prioritaire. Donc les parents un peu mobilisés, qui font un choix fort, parce que donc sont plutôt les professions intellectuelles et artistiques qui sont mobilisées dans ces actions de parents, à fort capital culturel, comme on dit, ce sont quand même des parents qui font le choix de l'école publique et qui essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'évitement scolaire. Et donc, c'est un acte politique du quotidien.
Qu'il y ait une certaine mixité sociale
Dans les écoles.
Dans les établissements publics.
Et donc, ces gens-là s'étaient mobilisés parce que ils étaient choqués que le collège perde cette appellation, parce que c'est quand même un collège qui a 50% d'élèves boursiers, beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Et effectivement, en refaisant les calculs, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu erreur et ils ont réussi à obtenir, après plusieurs semaines de lutte avec les enseignants du collège, que le collège reste dans ce réseau. Avec les moyens qui vont avec, donc moins d'enfants par classe, plus de conseillers d'éducation, des choses comme ça, plus de surveillants. Voilà, c'est ce réseau-là qui s'est réactivé. Alors au départ aussi avec cette colère de se dire « mais dans ce genre de quartier, il faut toujours se battre ». Mais en même temps, assez vite, la colère s'est transformée en volonté d'action.
Et en face, ceux qui étaient très inquiets de ce qui se passait, est-ce qu'il s'agissait aussi de gens qui se connaissaient avant, qui étaient mobilisés, qui étaient dans des formes d'engagement politique, pas les mêmes, où vous avez eu affaire à des gens plus isolés? Et finalement, comment s'est traduit leur réaction à cette situation?
Alors, il y a un groupe d'acteurs locaux qui était sur une position un peu particulière, qui était solidaire des migrants de manière générale en termes de valeurs, mais qui est le groupe, l'association locale des Amis de la Place des Fêtes, qui est le groupe qui avait fait tout un travail pour obtenir la médiathèque. Donc, ce groupe-là était assez mal à l'aise et effectivement assez désabusé de voir ce projet-là potentiellement abandonné. Donc, ce groupe-là était dans une position un peu complexe. Après, quand j'ai voulu travailler sur les ressorts des sentiments de rejet, c'était plus compliqué pour moi de repérer des caractéristiques communes. Quand j'essayais de rencontrer des habitants, effectivement, j'ai rencontré des individus dont j'avais parfois du mal à... Enfin, j'ai pas pu dégager un groupe. J'ai rencontré des personnes âgées, j'ai rencontré des gens immigrés, naturalisés, j'ai rencontré même un ancien dealer du quartier, fils d'immigrés algériens. J'ai rencontré une femme juive... Parce qu'il y a, c'est aussi toute une partie, dans cet immeuble en question qui est vraiment voisin du bâtiment occupé, c'est là aussi où vivent les juifs orthodoxes, les juifs Lubavitch. J'ai rencontré une réfugiée politique russe. Voilà, et ces gens-là avaient vraiment été extrêmement heurtés par cette occupation, l'ont très mal vécu, mais avec des profils assez différents. Il m'a semblé que certains avaient quand même en commun ce que j'ai qualifié d'une forme de vulnérabilité, que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié à un isolement social. Pour les juifs aussi, il y avait la fragilité. On est quand même en 2015, l'année aussi des attentats de l'hypercachère. Et c'est ce sentiment d'être un peu vulnérable et peut-être aussi des gens qui étaient moins insérés localement que d'autres. C'est-à-dire que dans ce genre d'événement, il m'a semblé que le fait aussi de pouvoir vivre les choses en groupe, pouvoir faire face à l'événement en groupe, c'est quelque chose qui donne une force et qui permet effectivement que les inquiétudes, les peurs, la colère se transforment en autre chose et en des sentiments plus positifs. Mais par contre, pour les gens qui ont très mal vécu et qui sont restés marqués par l'événement même dans les mois qui ont suivi, j'avais le sentiment que c'était des gens qui ont vécu ça de manière beaucoup plus seule.
Qu'est-ce que, au départ de ce groupe de migrants du quartier, qu'est-ce que vous diriez que ça a produit sur le quartier? Il y a différentes manières de, j'imagine, le mesurer. Je ne sais pas, peut-être, peut-être même avez-vous regardé ce qui s'est passé lors de ces élections dont vous parliez.
Alors, au niveau des élections régionales de 2015, j'ai effectivement observé un petit peu ce qui s'est passé sur les différents bureaux de vote. Et de fait, le bureau de vote qui concerne vraiment au micro-secteur, voisins du bâtiment, c'est-à-dire les immeubles qui avaient vu sur ce qui s'y passait, il y avait une augmentation relative quand même. Enfin non, c'est pas un vote pour le Front National très élevé par rapport à ce que ça peut être en France. Je crois que c'était autour de 15%. Mais ce qui était quand même frappant, c'était de voir d'une part que c'était la première fois depuis 2012, qui est le moment de redécoupage des bureaux, c'était la première fois depuis 2012 que ce bureau-là était en tête du vote pour le Front National sur la place. C'est-à-dire que c'était le bureau de vote de la place des fêtes où le taux de vote pour le Front National était le plus élevé et c'était la première fois que ça arrivait. Et on voyait nettement aussi à quel point le Parti Socialiste, sur ce bureau-là, avait été sanctionné, puisqu'il était à peu près de 40% le vote pour le Parti Socialiste dans les autres bureaux. Et là, il était descendu à 30% sur celui-là. Et c'est la première fois aussi qu'il y avait un tel décrochage. Et donc, ça avait profité aussi au Front National en partie, aux écologistes et puis à l'extrême gauche.
On va revenir sur ce quartier avec une autre habitante du quartier dans la deuxième partie de l'émission. Juliette Kahan va nous retrouver. Mais avant ça, on écoute un extrait du premier album de Soccer Mommy, le groupe d'une jeune américaine de 20 ans de Nashville. Un morceau qui s'appelle Your Dog.
Thank you. Sylvain Bourmeau.
Les migrants en bas de chez soi, c'est le titre du livre d'Isabelle Coutan, sociologue, à propos de ce moment particulier, de ce quartier particulier aussi de Paris, moment qui a vu l'arrivée d'un groupe de migrants, de réfugiés, occupant un lycée désaffecté. Ce moment, on y revient toujours avec Isabelle Coutan, mais aussi avec Juliette Kahan, qui a publié « Jour d'exil » il y a un an à peu près aux éditions de L'Olivier, qui est un récit littéraire, au fond, sur la même histoire, j'allais dire, cette histoire que vous avez vécue également comme habitante du quartier, mais dont vous avez décidé de parler avec d'autres moyens que ceux de la sociologie, avec les moyens de la littérature qui sont les vôtres. Et c'est intéressant, du coup, de croiser vos récits, de croiser la manière dont vous êtes revenu sur ces expériences. Je note que la littérature a été un peu plus rapide que la sociologie, mais jusque-là, rien d'anormal. C'est en général le cas, Juliette Kahan.
Oui, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé de lire le livre d'Isabelle parce que j'ai retrouvé beaucoup de moments très intenses, parfois assez terribles, et aussi quand même des choses formidables que j'ai trouvées qui se sont passées pendant ces quelques mois. Donc moi, en fait, je suis rentrée à Paris fin août et j'ai été avertie qu'il y avait cette occupation qui durait depuis à peu près un mois à ce moment-là. Il y avait quelques centaines de migrants qui étaient là, mais ça donnait pas vraiment une impression de suroccupation insupportable. Et j'y suis allée, bon, en voisine, enfin, j'habite de l'autre côté de la place. Je suis pas une voisine immédiate, j'habite pas dans les bars au-dessus. Ça joue peut-être aussi dans le fait que tout ce que décrit Isabelle comme inquiétude de la part du voisinage, moi, je l'ai pas, en tout cas, dans un premier temps, à ce moment-là, je l'ai pas ressenti tellement. Donc, je suis arrivée là, mais j'avais pas envie d'être là en voyeuse et je ne savais pas trop quel intérêt ça avait pour moi et pour les gens qui vivaient là, d'insister, d'y aller de manière régulière.
Vous ne saviez pas au fond quel rôle jouer dans... C'était celui d'une habitante du quartier, d'une...
Et ce que je voyais, si vous voulez, c'est qu'il y avait déjà énormément de bénévoles, de gens du quartier ou pas du quartier, mais qui venaient apporter de la nourriture, des vêtements. Il y avait déjà beaucoup trop de vêtements, en fait, qui s'entassaient un peu partout. Et une sorte de désorganisation qui était très visible, même pour quelqu'un qui débarquait. On comprenait pas bien comment le lieu s'organisait ou ne s'organisait pas. Et donc, j'ai un peu hésité. Et puis, en fait, pour des raisons que je m'explique pas forcément non plus d'une manière très rationnelle, mais j'ai été quand même happée tout de suite par cette situation parce qu'elle avait d'assez extraordinaire, un peu comme en effet d'une sorte de laboratoire où il y avait à la fois bon des gens qui étaient un peu plus à l'abri que sous le métro aérien dans le 18e, même si c'était pas non plus des conditions idéales, et en même temps des tas de gens qui manifestaient là, moi je voyais surtout ce côté-là, qui manifestaient leur désir d'aider, de montrer leur solidarité avec des sens tout à fait différents, évidemment. Donc voilà, j'ai été happée par ce lieu et puis je me suis dit que si j'y retournais, c'était pour faire quelque chose de précis. Et donc je me suis auto-attribué une fonction à la cuisine parce que bon, c'était un endroit où pour moi c'était relativement simple à repérer. Je pouvais venir là tous les matins, on ouvrait la réserve, on préparait le petit déjeuner. C'était quand même pour plusieurs centaines de personnes avec des moyens totalement rudimentaires. Il n'y avait absolument aucune, évidemment, infrastructure qui permettait de faire quoi que ce soit, ni non plus d'ailleurs d'infrastructure sanitaire. Ça a été un des gros problèmes, je trouve, dans cet endroit. C'était très, très précaire. Et en même temps, ce qui se passait là, cette rencontre entre des autochtones et des migrants, je trouvais que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et de rare. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à entrer. Moi, j'y suis entrée donc assez rapidement quoi dans ce lieu, mais en me disant que j'allais y faire quelque chose.
Mais vous avez ressenti cette addiction dont parlait Isabelle Coutan ?
Alors, addiction, c'est peut-être un mot un peu négatif, je sais pas, mais non, en tout cas, à partir du moment où on y est, on ne lâche plus. J'ai découvert aussi comment ça fonctionnait via Facebook, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation, alors là, pour le coup, fabuleuse, qui était que, je sais pas, il manquait quelque chose, on demandait sur la page de la, ça s'appelait la Maison des Réfugiés, on disait, voilà, il y a besoin d'un électricien, ou il y a plus de lait, enfin, n'importe quoi, et 2 heures après, il y avait, voilà, c'était... Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très, très étonnant comme forme d'organisation horizontale, participative, si on peut dire. Et voilà.
Ça, c'est une chose que vous relevez aussi dans votre enquête, Isabelle Coutant, mais qui a été relevée par d'autres chercheurs depuis un moment. C'est-à-dire qu'en fait, cette population, parce que ça ne concerne pas que les gens qui viennent aider, mais ça concerne aussi les migrants, est assez connectée et utilise beaucoup les moyens de communication de ce type pour coordonner leurs actions, pour trouver des solutions très pratiques à des problèmes qui se posent à eux.
Oui, mais là, c'était central, effectivement, hein, le rôle des réseaux sociaux, Facebook. Je pense que ça a été central dans la constitution du collectif La Chapelle dès le départ. C'est-à-dire que la page Réfugiés de La Chapelle en lutte, elle réunissait à la fois des soutiens solidaires, mais aussi des demandeurs d'asile. Très vite, quand on rentre dans le lieu et qu'on commence à se lier avec quelques demandeurs d'asile, on devient, si on le souhaite en tout cas, on devient ami Facebook. Et puis l'organisation, effectivement, à la fois par cette page Réfugiés de La Chapelle en lutte et puis par ensuite ce qui a été un groupe plus fermé, Maison des Réfugiés, elle permettait effectivement... très vite aux gens de s'organiser quand il fallait accompagner quelqu'un à l'hôpital, quand il fallait trouver des vêtements, la nourriture. Enfin, c'était, du coup, ça produisait parfois des excès de dons, des choses comme ça. Ou quand on avait besoin d'informations, on trouvait toujours quelqu'un à qui téléphoner et pour avoir les informations dont on avait besoin. C'était assez surprenant.
Alors, Isabelle Coutant nous a dit tout à l'heure qu'elle avait finalement décidé assez tôt de commencer une enquête, d'être dans cette posture-là. Qu'en est-il pour vous, Juliette Kahn, puisque vous avez publié ce livre sur ce moment? Est-ce que l'idée est arrivée un peu plus tard ou finalement non, assez vite?
Non, j'ai commencé à prendre des notes assez vite. Bon, après les matinées à la cuisine, qui étaient de plus en plus chaotiques, il faut dire, je prenais des notes, quelquefois dans le lycée même ou en rentrant chez moi. Parce que finalement, ce qui a commencé à germer dans ma tête en même temps que je faisais ça, c'est que c'était une occasion très intéressante de tester pour moi-même d'abord, enfin, ce qui se passait dans ma tête au fur et à mesure, et puis les gens que je côtoyais, les gens avec qui je parlais, de ce qui se passait au lycée, mais aussi plus généralement de ce qu'on appelait, enfin, ce qu'on appelle toujours donc la crise des migrants, et de mettre à l'épreuve finalement les idées générales sur la France, terre d'accueil, Paris, ville d'accueil, etc., et puis la façon dont ça se passe concrètement à la fois du côté des municipalités, justement. Par exemple, une chose qui m'a beaucoup choquée, que j'ai absolument pas compris, c'est que la mairie de Paris, tout en disant qu'elle allait le faire, pendant ces 3 mois d'occupation, n'a jamais réussi à installer une batterie de toilettes dans la cour du lycée, ce qui aurait sûrement aidé peut-être à la survie quotidienne des gens. Bon, ça, c'est une chose. Mais disons, principalement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment moi-même, confronté à une situation de rencontre avec des gens avec qui il y avait nécessairement un certain nombre de décalages culturels, et je pense que le dénier et faire semblant que ça n'existe pas, c'est idiot. Donc ça m'intéressait, à travers mes propres réactions, de voir quelles questions se posaient pour les gens que j'appelle les autochtones, qui sont là, donc voisins ou pas voisins, et comment on peut, avec des idées toutes faites ou pas au départ, peut-être pour ceux qui étaient très politisés, très engagés, etc., mais sinon, comment on fait quand on se trouve face à un groupe de gens qui débarquent là et qui vous demandent une forme de solidarité?
Ce qui est frappant, Isabelle Coutant, en écoutant le témoignage de Juliette Kahn aussi, qu'on retrouve dans Jour d'exil, son livre, c'est tous ces investissements, ces engagements de gens qui se sont retrouvés bien en deçà de ces idées générales, de ce cadre politique, à prendre en charge ce qu'on pourrait appeler la politique publique, en l'espèce. C'est-à-dire que il y a un vrai décalage entre des grandes décisions qui peuvent être prises ici ou là, et puis ce qui fait qu'au fond, il n'y a pas eu de drame. Ce qui fait au fond que les choses se sont malgré tout correctement passées dans le quartier, c'est tout simplement qu'un certain nombre d'habitants de ce quartier se sont comportés comme des citoyens acceptant de prendre leur part, de prendre en charge des morceaux de politique publique, on peut le dire comme ça au fond.
Oui, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et c'est d'ailleurs, certains des militants les plus politisés, on le lit aussi dans le livre de Juliette, étaient assez hostiles à ce que des citoyens ordinaires prennent en charge cet accueil-là.
En disant que c'est la responsabilité des pouvoirs publics.
Voilà, et que du coup, ça faussait le jeu et ça cassait leur lutte politique. Il y avait des tensions un peu sur ce thème-là. En même temps, par rapport à ça, je crois, les riverains mobilisés, et riveraines beaucoup, étaient assez tranquilles en se disant que de toute façon, effectivement, eux, leur enjeu en tant que simples témoins voisins qui voyaient ce qui se passait par leur fenêtre, c'était effectivement d'éviter un drame. C'était hors de question... que quelqu'un soit jeté par la fenêtre sous leurs yeux, ou parce que c'était ça aussi qu'on craignait, ou qu'un incendie voilà se propage. Je pense que les voisines mobilisées sur cette politique publique au quotidien que faisait à la place des institutions savaient que ça pouvait fâcher certains des militants, mais le faisaient en assumant, parce que de toute façon, et puis aussi pour éviter les conséquences éventuellement, les traces que ça allait laisser dans le quartier après, parce qu'on savait qu'il y avait un après, et l'idée c'était effectivement que le quartier lui-même n'explose pas, que les gens ne se fâchent pas trop fort, qu'il n'y ait pas des choses trop violentes qui se disent entre les uns et les autres, parce que c'était ça aussi qui pouvait se passer.
Oui, il faut dire aussi que ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que c'est à la fois le fait que c'est ceux qui ont ouvert le squat, enfin donc ces militants très engagés, dont parle Isabelle, avaient comme a priori qu'il fallait que ce soit un endroit géré de manière autogestionnaire, et qui était un peu un non-sens vu que les gens ne se connaissaient pas, n'avaient pas du tout décidé ça, ne parlaient pas la même langue. Enfin, c'était, et en même temps, c'est grâce au fait que c'était un endroit autogestionnaire, donc ouvert à tous, que s'est produit cette espèce de creuset, de mélange, de laboratoire où des tas de gens très très divers pouvaient se croiser et se parler, y compris parmi les autochtones, les jeunes, les vieux, etc. Donc ça, c'était un paradoxe.
Et vous diriez que ça a laissé quelle trace, quelle mémoire dans ce quartier, cet événement maintenant qui date de quelques années ?
Moi, je suis moins une habitante du quartier, peut-être qu'Isabelle, mais ce que j'ai quand même perçu, c'est que ça avait déclenché du coup. Enfin, il y avait déjà des associations de quartier, mais j'ai l'impression qu'elles en ont peut-être pris une vigueur nouvelle. Enfin, qu'elles se sont peut-être un peu plus renforcées et ravivées.
Vous partagez ce constat ?
Il me semble. Enfin, c'est une des conclusions que je tire. Je parlais tout à l'heure du côté, les traces un peu négatives en. Enfin, de mon point de vue, en parlant de l'augmentation du vote pour le Front National, mais un des autres effets, ça a été une intensification
des relations sociales
locales et des relations entre les différentes associations. Il s'est passé une vie sociale locale plus forte.
Cet événement, donc, dans ce quartier parisien en 2015, fait l'objet à la fois d'une enquête de sociologie, Les migrants en bas de chez soi, c'est un livre d'Isabelle Coutan, et puis d'un récit littéraire, Jour d'exil, de Juliette Kahn. On trouve les références bibliographiques des deux livres sur la page de La Suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Denet, à la technique, Claude Niort, à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière. Thank you.